France Info.
Bonsoir, l'affaire Benalla, saison 2, à la une des informés de France Info. Le récent déplacement au Tchad de l'ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron, mis en lumière par le journal Le Monde, provoque des révélations aux chaînes. Oui, il voyage aujourd'hui avec un passeport diplomatique selon Mediapart. Le Quai d'Orsay entre dans la danse en affirmant lui avoir réclamé, fin juillet, non pas le, mais les deux passeports diplomatiques dont il disposait à l'Elysée. Ce feuilleton vient troubler une trêve des confiseurs dont le pays tout entier avait pourtant bien besoin. L'autre titre ce soir, à chacun son gilet jaune. Les futurs candidats aux élections européennes verraient bien quelques petits gilets rejoindre leur liste. Nous reviendrons sur Monsieur Trump, décidément très actif en cette période de fête. L'Amérique ne veut plus être le gendarme du monde. Les temps changent. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Fatima El-Ouazdi.
Bonsoir.
Présidente fondatrice de Politiquel. À mes côtés également, François Reinhardt. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, chroniqueur à l'Obs, partenaire des Informés. Également invité ce soir, bonsoir et bienvenue, Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général adjoint de l'IFOP. Et avec nous, bonsoir, Éric Delannoy. Ravi de vous retrouver, économiste, président, fondateur du cabinet de conseil Tanzing. Nous sommes ensemble à la radio et à la télé jusqu'à 21h sur le canal 27 de la TNT. Peut-on décemment parler de nouvelles affaires Benalla, le récent voyage à N'Djamena au Tchad de l'ancien chargé de mission de l'Elysée avec une délégation d'hommes d'affaires révélée par la Lettre du Continent, publication consacrée à l'Afrique de l'Ouest et par le journal Le Monde, avait déjà semé le trouble. Il faut dire que ce déplacement a eu lieu 10 jours avant la visite d'Emmanuel Macron, venu réveillonner, vous le savez, avec les soldats français de Barkhane. Il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence, avait alors réagi l'Élysée. Rebondissement aujourd'hui, Mediapart révèle qu'Alexandre Benalla utilise un passeport diplomatique. Et le Quai d'Orsay, en fin de journée, annonce avoir réclamé la restitution des deux passeports dont l'ancien collaborateur du chef de l'État disposait avant son licenciement pour l'affaire que l'on sait et s'était engagé à rendre. Alexandre Benalla, écoutez bien, regardez bien, avait évoqué ces documents officiels lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat le 19 septembre dernier.
La délivrance de passeports diplomatiques est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Et donc, ce sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés pour une durée d'un an de mémoire et qui sont renouvelés de manière automatique par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu'ils arrivent à échéance. Ça ne confère aucun avantage, vous n'avez aucune immunité, c'est juste dès lors que vous vous déplacez avec le président de la République sur un déplacement à l'étranger ou dans le cadre de vos missions en précurseur, qui indique un peu la nature de vos fonctions, et tout le monde en dispose. Je crois même que certaines personnes qui appartiennent à l'intendance ou aux cuisines en disposent. C'est simplement, non pas une facilité, mais c'est l'usage. Donc la procédure de renouvellement du 24 mai, elle est classique, elle correspond à la procédure de renouvellement du précédent passeport. Voilà, c'est une procédure administrative simple. Ce qu'ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Elysée, donc je pense que l'Elysée a dû s'en occuper, mais en tout cas, ils étaient.
Voilà, document étonnant, hein, Alexandre Benalla, en septembre dernier, qui dit avoir laissé ses passeports sur son bureau à l'Elysée. Fatima El-Ouazdi, y a-t-il, oui ou non, une nouvelle affaire Benalla, selon vous?
Alors, je pense pas qu'il y ait une grosse affaire Benalla comme celle qu'on a connue pendant cet été. En revanche, je trouve ça grave qu'il ait menti sous serment, puisque quand on témoigne dans la commission d'enquête parlementaire, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, on prête serment de dire la vérité. Et donc, en disant qu'il les a laissés à l'Élysée, c'est un mensonge, hein, puisque d'après Mediapart, a confirmé encore. Enfin, je pense que si le Quai d'Orsay dit qu'ils ont demandé à récupérer les passeports, c'est que les passeports n'étaient pas à l'Élysée. Donc, je trouve ça dramatique, en effet, qu'il puisse mentir comme ça éhontément. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est plutôt son rôle, le rôle qu'il peut mener dans ces fameuses missions de consulting qui sont décrites par le journal Le Monde et qui sont en fait très vagues. On ne sait pas trop qui il rencontre. On sait qu'il rencontre des chefs d'État. En revanche, on ne sait pas ce qui est dit, comment ça se fait qu'il rencontre des chefs d'État alors que ce monsieur, il a 27 ans.
Vous trouvez ça extravagant?
Oui. Je trouve ça un peu trop gros et je pense que c'est au procureur aussi de la République qui a été saisi par le directeur de cabinet d'Élysée de faire aussi ce travail de dire si c'est illégal ou pas.
Alors François Reinhardt, vous êtes journaliste mais aussi écrivain, c'est un roman.
Là, c'est un roman, mais en tout cas, dans la saison 2, il me semble que la saison 2 est plus faible que la saison 1, si je puis me permettre.
Hein. C'est souvent le cas.
Voilà. Oui, vous avez raison. Parce que, dans les séries, en tout cas, parce que
là,
elles sont pas, oui, non, tout à fait, vous avez tout à fait, on connaît pas toute l'histoire, mais dans ce qu'on croit comprendre aujourd'hui, elles sont de nature différente. La première histoire, c'était donc, Benalla qui tabasse un manifestant. Et on s'aperçoit qu'il est à l'Élysée. Donc, et la première question, c'était est-ce que Macron a une police parallèle? Non, mais est-ce que Macron a couvert ses agissements? Donc, ça mettait en cause Macron. Autant qu'on sache, pour l'instant, cette deuxième affaire-là, elle ne met pas en cause l'Élysée. Elle met en cause un individu qui lui-même usurpe une identité en ne rendant pas les passeports qu'il aurait dû rendre et en les gardant. Si on a le document du Quai d'Orsay qui dit que le Quai d'Orsay a demandé les passeports. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'un passeport puisse pas être annulé unilatéralement. Ouais. C'est ça qui m'étonne. J'arrive pas à comprendre que l'administration puisse pas dire, ce passeport-là, il est annulé, donc vous n'avez plus le droit de vous en servir. Voilà, mais effectivement,
beaucoup de zones d'ombre.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Éric Delannoy, vous étiez venu parler économie, vous vous revoilà ce soir avec l'affaire Benalla.
Affaire Benalla, on n'en est pas encore là. Alors moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que c'était un bon signe. Ça veut dire que les journalistes n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Les gilets jaunes, ça fait plus recette. Donc on va trouver autre chose.
Vous pensez que nous, on est là pour, on cherche la petite bête et on essaie de feuilletonner pour faire du.
Peut-être pas tous, mais quand je vois du bruit médiatique. Pas tous, mais quand je vois ce qui était devenu l'affaire Benalla, quand je vois ce que sont devenus les gilets jaunes, et ce qu'on essaie de mettre en évidence là, enfin quand même, faut quand même se poser la bonne question. Pourquoi? Pourquoi l'Élysée utiliserait-il un émissaire comme ça? Emmanuel Macron, en fait, il n'en avait pas eu assez de l'affaire Benalla. Les gilets jaunes, c'était pas suffisant. 25% de notoriété, c'était encore trop haut. Donc il s'est dit, je vais l'envoyer en Afrique, ça se saura pas du tout. Je vais lui laisser ses passeports diplomatiques. Enfin, ça tient pas debout une demi-seconde. Ça veut dire simplement que là, on est devant quelqu'un qui a manifestement est incontrôlable, qui a menti sous serment, et puis qui finalement, ne fait pas ce qu'il dit. Et on est dans un état de droit et dans la machine administrative, on n'a pas récupéré les passeports. Point.
Ouais, Frédéric Dabi. Les journalistes, vous avez l'impression qu'ils prennent du plaisir avec cette affaire, comme le dit Éric Delannoy.
Je le pense pas, mais c'est vrai que c'est quand même très, quelle que soit la gravité ou le côté ridicule de cette affaire, le problème, comme
elle
vous
est
disiez,
nous quand même.
C'est
est
que nous avons une saison 2 et le cauchemar pour l'Élysée, c'était que cette affaire devienne une sorte de feuilleton et que nous sommes à la fin de cette année horribiliste pour le chef de l'État. Fin d'année 2018, il y a l'idée d'un sursaut, d'un nouvel élan en 2019. Et qu'est-ce qui se passe de nouveau? On parle de cette affaire Benalla dont, il faut bien le dire, l'impact sur l'impopularité d'Emmanuel Macron est nettement plus marginal que l'absence de résultats, que l'injustice perçue de sa politique. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, ça avait été une année extrêmement compliquée et l'affaire Benalla lui avait fait perdre sa distinction par rapport à ses prédécesseurs.
Sauf que pour l'instant, Macron n'est pas en jeu dans l'histoire.
Non, pour l'instant, on va parler.
Macron. Ouais.
Allez, 20h11 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Peter Sherif cible d'une nouvelle mise en examen ce soir. Il est soupçonné d'activités djihadistes au Yémen. La justice a décidé de le placer en détention, notamment pour exécuter également une peine de 5 ans de prison pour avoir combattu en Irak. Peter Sherif est un proche des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Le ministère des Affaires étrangères examine la possibilité de poursuites judiciaires contre Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission à l'Élysée est toujours en possession de 2 passeports diplomatiques, malgré des demandes de restitution du Quai d'Orsay. La présidence de la République demande également des comptes sur les activités d'Alexandre Benalla, lui qui a été vu au Tchad avant le déplacement du chef de l'État dans le pays. Il dit exclure toute volonté de récupération politique. Le chef de file des Patriotes, Florian Philippot, a déposé le nom Les Gilets Jaunes à l'IMPI, l'Institut de la Propriété Intellectuelle. Il souhaite conduire sous ce nom une liste hybride rassemblant militants de son mouvement et Gilets Jaunes. L'Inter Milan condamné à jouer 2 matchs à huis clos hier dans le stade en pleine rencontre. Le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly a été la cible de cris racistes en provenance des tribunes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il y a eu une autre révélation aujourd'hui, celle du journal Le Monde, encore, qui a révélé que le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strada, a écrit il y a quelques jours à Alexandre Benalla pour lui interdire de se réclamer d'Emmanuel Macron, justement, on en parlait à l'instant, dans sa nouvelle vie d'homme d'affaires, le sommant de s'expliquer sur, je cite, d'éventuelles missions personnelles et privées qu'il aurait menées pendant ses fonctions à l'Élysée. Son avocate, l'avocate d'Alexandre Benalla, maître Jacqueline Lafont, jointe par nos confrères de BFM TV ce matin, avait pris la défense de son client expliquant qu'il s'était rendu au Tchad de son propre chef.
fait l'objet d'aucune interdiction de sortie du territoire, qu'il est libre de ses faits et gestes, c'est qu'il a perdu son travail dans les conditions que tout le monde connaît, c'est que la France entière, et je dirais même plus que la France entière, connaisse la situation de Alexandre Benalla, qui ne travaille plus pour la présidence de la République depuis le 1er août 2018, et que lorsqu'il se rend au Tchad, c'est évidemment de son propre chef, de sa propre initiative, dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un projet d'activité professionnelle qui est sans le moindre rapport avec ses activités passées.
Éric Delannoy, vous qui connaissez bien les milieux économiques, Alexandre Benalla, à peine sorti de l'Elysée, si je puis dire, dans des Falcons, avec des hommes d'affaires, avec un certain volume, finalement, c'est crédible ou pas?
Mais bien sûr, c'est crédible. On voit apparaître tous les réseaux de la France-Afrique qui sont en déshérence depuis qu'Emmanuel Macron leur a déclaré la guerre.
Vous dites ça, vous, France-Afrique?
France-Afrique, on voit apparaître un monsieur Salomon Ababou, qui a fait de la prison en 2003, qui a refait de la prison en 2007, qui a fait l'intermédiaire entre Israël et le Qatar et les pays africains, qui a été consul de la Centrafrique
en Israël. L'opération,
c'est non seulement lui qui pilote l'opération, mais
c'est pilote Benalla, visiblement.
Qui pilote Benalla. Enfin, il l'a formé, il l'a pris sous son aile, il l'a rencontré plusieurs fois à Londres. Benalla a pris plusieurs contacts de la France-Afrique. Donc, on est bien là dans un nouveau mercenaire politique et il profite de sa notoriété. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le directeur de cabinet de l'Élysée a pris cette initiative-là pour faire en sorte de faire la lumière sur les contacts qu'il aurait pris pendant ses fonctions. C'est bien ça dont il s'agit. C'est que les émissaires de la France-Afrique, ces réseaux un petit peu mafieux qui ont prospéré pendant les différentes législatures avant et pour lesquelles Emmanuel Macron leur a déclaré la guerre, ils essaient de trouver des interstices dans les notoriétés de gens qui ont approché la présidence.
François Reynard, vous êtes d'accord avec cette vision
Malheureusement, je ne sais sur cette affaire que ce que j'ai lu dans les journaux aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Donc effectivement, il y a encore des zones d'ombre, mais effectivement, ce qu'on a l'air de restituer pour l'instant, c'est qu'il y a cet individu dont vient de parler Monsieur Delannoy, qui s'appelle Philippe Ababou Salomon, là, qui est donc un type assez douteux, hein, on peut le dire sans être diffamatoire. Il a quand même fait de la prison plusieurs fois, etc. Qui est dans toutes les affaires douteuses, effectivement, de réseaux, de valises, etc. de la France-Afrique. Et ce type-là a pris Benalla parce que probablement il doit se dire c'est un nom qui sonne Élysée, donc je vais me faire bien voir devant les chefs d'État africains. Oui. Mais voilà, et puis il y a d'autres noms aussi dans le monde. Il y avait les noms de Charles Villeneuve, par exemple.
Il y avait Jury, Alexandre Jury.
Alors lui c'était Monsieur Libby. Voilà, tout ça c'est des gens pas très recommandables, franchement.
Alors Fatima El-Ouazdi, pour la défense d'Alexandre Benalla, il dit lui-même qu'au fond il aurait été pris en grippe eu égard à son origine modeste.
Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ce passage-là et je trouve que c'est quand même malheureux de toujours rappeler son origine sociale pour se trouver des excuses, ce qui a un peu été
surtout
le cas.
Surtout qu'il n'est pas du tout d'une origine modeste, Alexandre Benalla.
Enfin, je connais pas ses origines, mais en tout cas, ce qui est le verbatim de l'article, si je me souviens bien, c'est qu'il dit, en fait, moi, je suis d'origine sociale différente de ceux qui sont énarques, etc. Et donc, forcément, c'est eux contre moi. C'est ça qu'il dit dans l'article et qui est un peu frappant. Moi, je pense que il a fait une grosse bêtise, en l'occurrence, ce 1er mai-là, et c'est des bêtises pour lesquelles il doit assumer ses conséquences. Quand j'entends son avocate dire qu'il a perdu son emploi dans les conséquences comme si c'était quelque chose de dramatique et qu'en fait, on lui avait enlevé quelque chose. En fait, quand même, ce qu'il a fait, c'est illégal. Donc, forcément, il y a des sanctions. Il y a des suites. Et puis, en termes de reconversion professionnelle, oui, il a le droit d'avoir un nouveau travail. Cependant, est-ce qu'il peut avoir aussi un travail qui soit un peu éthiquement et moralement un peu sain? Parce que quand on sait qu'il a été proche du président de la République pendant presque un an et demi à l'Élysée, est-ce qu'il peut décemment penser que c'est normal de se rapprocher de chefs d'État africains qui sont corrompus, qui ont des incontances assez douteuses? Je ne sais pas, mais je pose la question en tout cas.
Alors Frédéric Dabi, je vais faire réagir à ce qui va suivre. Parmi les réactions ce soir, il y a celle stupéfaite sur France Info de la porte-parole des Républicains, Madame Laurence Allier.
Moi, je suis stupéfaite. C'est encore une succession de mensonges, de contradictions. Je ne comprends pas qu'on puisse gérer les choses avec tant de laxisme. Que le Quai d'Orsay ait demandé à ce qu'il y ait restitution des passeports, qu'il n'y ait pas eu cette restitution et que personne ne s'en soit inquiété, ça pose vraiment une question. Donc moi, je ne suis pas enquêtrice, ce n'est pas mon travail, mais nous demandons à ce que la lumière soit faite. Le président de la République n'a jamais vraiment répondu aux Français sur le rôle qu'exerçait Alexandre Benalla à l'Élysée. Et on voit bien que même à la commission d'enquête du Sénat, des documents n'ont pas été remis. Donc maintenant, il faut dire la vérité. Il faut que les Français sachent qui est cette personne et quelle pression elle exerce exactement sur les uns ou les autres.
Alors Frédéric Dabi, c'est un petit peu la question que tout le monde se sera posée durant l'été, durant la saison 1 du feuilleton Benalla. Et par-delà cette question, souvenez-vous, tiens, on va prendre Clearstream. Il y a une dizaine d'années, on avait vécu aussi un feuilleton qui a duré des mois et qui a empoisonné la vie de cette République qui aura connu tant de feuilletons depuis son démarrage, depuis la fin des années 50.
Oui, mais qui n'a pas vraiment intéressé les Français. Ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Laurence Saillez, c'est voilà, c'est une exploitation. On est sur deux faits, deux cas complètement différents. Ce qui s'est passé le 1er mai avec cette altercation assez sévère, place de la Comté Escarpe, l'affaire de ces passeports, la conséquence, enfin l'effet, c'est la réactivation de l'affaire Benalla. C'est de nouveau le brouillage de prise de parole éventuelle du président. Il parle très bientôt, le 31 décembre, pour, je dirais, ses vœux. Et puis, c'est une fois de plus, c'était le début l'impopularité structurelle du président, c'est la perte de maîtrise de l'agenda. C'est-à-dire que les faits s'imposent à lui. On a en fait l'opposition qui parle de désordre, de légèreté, sur des cas extrêmement différents. Voilà, c'est en ça que cette affaire qui, je pense, ne va pas, en cette période de fin d'année, passionner les Français. Déjà, sur ce qui s'est passé au mois de juillet, au lendemain de la Coupe du Monde, très vite dans nos enquêtes, oui, on a vu une véritable saturation des Français sur, pardon, la focale médiatique extrêmement forte.
Oui, nous avons été critiqués pour ça.
Voilà,
oui.
Il y a eu des
critiques. Mais ça, c'est le principe de la formation continue, du rôle compresseur.
Mais je n'ai pas à juger cela. Ce qui est vrai, c'est que ça n'a pas eu un impact majeur sur la descente aux enfers d'Emmanuel Macron, qui avait commencé avant cette affaire, avec la question des retraites, avec la question du pouvoir d'achat, avec la question de l'injustice qu'on a vu.
Oui, les racines de l'impopularité sont
antérieures. Les racines n'étaient pas là,
oui.
C'était plus l'action que l'incarnation, mais très très clairement, ça a brouillé l'image d'Emmanuel Macron, et il y a eu toute une série de brouillages, depuis des prises de parole inconsidérées, les photos à Saint-Martin, mais c'est vrai que une des forces d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle et sa première année de mandat, c'était la distinction par rapport à ses prédécesseurs. Là, on est vraiment nouveau. Vous parliez, Jean-François, de Clearstream. On est de nouveau dans l'ancien monde.
Allez, nous allons dépasser l'affaire en soi et nous allons évoquer dans un instant la gouvernance, les institutions. Mais tout d'abord, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benech.
La gare de Strasbourg à l'arrêt en ce moment à la suite d'une alerte à la bombe. Le trafic SNCF est interrompu à la suite d'un appel malveillant. Les autorités doivent sécuriser les lieux, indique France Bleu Alsace. Les voyageurs sont invités à se mettre au chaud dans les cafés alentours. Alexandre Benalla a menti, il doit être condamné, déclare ce soir sur France Info le député MoDem du Loiret, Richard Ramos. Devant les parlementaires, l'ancien chargé de mission a déclaré avoir rendu ses passeports diplomatiques, ce qui n'est pas le cas, relève ce soir le Quai d'Orsay. Des documents qu'Alexandre Benalla a utilisé pour se rendre au Tchad avant que le chef de l'État ne s'y déplace, selon Mediapart. La CGT Renault veut savoir. Le syndicat dénonce sur France Info un manque de transparence du constructeur automobile. Il pointe du doigt une holding aux Pays-Bas dont le rôle aurait été d'adresser des compléments de revenus à des cadres de la marque aux losanges, leur montant jusqu'à 130 000 euros. Quelle date pour le coup d'envoi des soldes d'hiver? Le 2 janvier de manière anticipée ou le 9 comme initialement prévu un peu partout en France? Le ministère de l'économie se prononcera d'ici lundi. Les commerçants affectés par la crise des gilets jaunes plaident, eux, pour des soldes avancés.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant ce parfum, ce poison d'affaires venu clore une année si compliquée pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement. Pour la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, cette péripétie fait s'interroger sur nos institutions.
Quand vous avez un ancien conseiller du président de la République qui va voir un président d'un pays étranger une semaine avant que le président de la République lui-même s'y rende, ça pose quand même une question sur qui porte la diplomatie de notre pays. Et en tout cas, ça pose une question sur les institutions. Les institutions, c'est dans une démocratie notre bien le plus précieux. Donc il faut à tout prix les préserver. Et une commission d'enquête, par exemple à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça sert à ça.
Valérie Rabault, chez nos amis de France Inter ce matin, François Reynhardt, qu'est-ce que ce type de péripéties, d'affaires, raconte justement sur notre fonctionnement démocratique, nos institutions?
Eh bien justement, je voulais à ce propos rappeler une chose toute simple, parce que là, on a l'impression que la démocratie est de plus en plus mise en péril aujourd'hui. Quand toutes les manifestations des Gilets jaunes, il y avait un côté, on a le sentiment qu'on vit dit, on entendait, on est dans une dictature, etc. Non, non, non. Une dictature, c'est la Russie, c'est une dictature. Là, une affaire Benalla, elle sortira pas tout simplement parce que le journaliste qui voudrait la sortir, il serait écrasé en prison ou tabassé par la police politique du pouvoir. Là, il y a des affaires. Le fait qu'il y ait des affaires et que ces affaires sortent, ça veut dire, paradoxalement, qu'on est dans une démocratie. Donc là, les gens de l'opposition font leur travail de gens de l'opposition, c'est tout à fait normal, ils râlent, c'est mal géré, etc. Mais il faut rappeler que ces choses-là prouvent que nous sommes dans une démocratie. Hein. Je suis désolé de dire une telle évidence, mais on est dans un climat, partout au monde, on voit les démocraties tomber les unes après les autres. Hein, la Hongrie, la Pologne, etc., qui sont dans des régimes qui sont de moins en moins démocratiques. On est encore dans un régime démocratique, il faut le préserver, ça veut dire que la presse fait son travail, et quand la presse fait son travail, il faut saluer qu'elle fait son travail, mais pas en déduire qu'on est dans je ne sais quel régime bananier, etc., pas du tout.
Je vous ai vu acquiescer, Fatima El-Ouazdi, à ce que disait à l'instant François Reynard, nous sommes dans une démocratie, vous parliez de contre-pouvoir. Hein.
Bien sûr, je pense qu'on a la chance d'avoir une presse qui est libre en France, qui peut faire son travail de façon tout à fait apaisée, mis à part, bien sûr, dans les manifestations où on a vu les gilets jaunes insulter les journalistes, les menacer, etc. Mais on a quand même la chance d'avoir des contre-pouvoirs en France qui fonctionnent. Quand on a eu la commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui s'est faite quelques jours après l'annonce de l'affaire Benalla, c'est quand même la preuve que les institutions autres que l'exécutif, donc le législatif, fonctionnent également. On a aussi une autorité judiciaire qui fait aussi son travail, qui a ouvert une enquête et qui vient d'être saisie aussi par le directeur de cabinet du président de la République. Donc ça prouve que des choses fonctionnent. Ce que dit Valérie Rabault est intéressant parce que elle dit on a un problème, on ne sait pas qui fait la diplomatie. C'est intéressant, c'est aussi le travail aussi, ouais, les fameuses polémiques qui tournent sur le problème avec les lobbies. Je dis ça, c'est pas ce que je pense, mais je traduis un peu ce qu'elle vient de dire. Mais c'est intéressant aussi de se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre et dans un manque de transparence, et est-ce que ce qui est fait est légal? Et ça, c'est la question qui doit être traduite en justice, je pense.
Éric Delannoy, ça mérite d'être posé, je vous ai vu un petit peu...
Ça mérite d'être posé à partir du moment où on est dans une bienveillance et qu'on écoute les réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose les problèmes, on les envenime et on n'écoute pas les réponses. Quand même... que ce soit l'opposition qui, par une déshérence d'idées absolues, prend n'importe quoi pour en faire n'importe quoi, toutes les opinions ne se valent pas. Quand on parle de la question de la diplomatie, je suis désolé, quelqu'un qui n'est plus en fonction à l'Élysée. Alors maintenant, quand un président de la République se déplace, il va falloir qu'on vérifie que dans le pays, il n'y a pas quelqu'un qui a eu des fonctions proches de la présidence et qui peut pas. Il est libre de mouvement, il n'a plus de fonction. Je vois pas comment on peut l'en empêcher. Pourquoi on ne se pose pas cette question de bon sens?
Mais après, en fait c'est pas question de l'empêcher, c'est de savoir est-ce qu'il l'a pas utilisé de son ancien poste,
qu'on se pose la question, je veux bien.
Alors, j'espère qu'on va les écouter.
Frédéric Dabi, dans cette affaire, monsieur Benalla, qui circule très librement alors qu'il est quand même mis en examen et qu'il l'aura pesé.
Mis en examen, ça ne veut pas dire coupable.
Exactement. Oui, mais qu'il aura pesé.
Il n'a pas d'interdiction
de sortir du territoire. Il aura pesé politiquement sur cette année 2018 et il est vraisemblablement dans une boucle affairiste dans des pays d'Afrique, au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a de là une forme de légèreté, d'opacité, d'amateurisme, une simple malchance pour le pouvoir?
En tout cas, ça peut réactiver ce qui est maintenant bien, ce qui imprègne beaucoup le discours de certains Français, ce qui était complètement absent de la première année du quinquennat du président, c'est les couacs. La distinction par rapport au prédécesseur, c'était le fait que tout semblait carré, tout semblait bien roulé. Et là, on est quand même depuis maintenant cet été sur des affaires extrêmement différentes, que ce soit aussi des reports en fait d'annulation de taxes, comme on l'a vu la semaine dernière. On a le sentiment qu'il y a une perte de la maîtrise. On le voit très très clairement dans des questions de trait d'image associées au pouvoir exécutif. Est-ce que Édouard Philippe dirige bien l'action de son gouvernement? Il a perdu 20 points depuis le mois de septembre. Est-ce que Emmanuel Macron incarne différemment la fonction? Ça s'est également écroulé. Sur la question des institutions, les Français ne se posent pas la question comme cela. Il n'y a qu'à voir les difficultés pour revenir à la question de la récupération des gilets jaunes de la France insoumise à imposer l'idée d'une sixième république. Par contre, ce qui fragilise le lien démocratique, si je puis dire, ce n'est pas un discours tous pourris, tous légers, c'est plutôt tous impuissants à résoudre les problèmes des Français. Là, il y a vraiment une véritable détérioration du lien entre représentants et représentés, et c'est là que la démocratie peut être en danger. On avait parlé il y a quelques semaines sur votre plateau de cette enquête de l'IFOP où 4 Français sur 10 seraient prêts à recourir à un pouvoir autoritaire. Il fallait pas prendre la question, mais aux planètes pour pouvoir résoudre les problèmes du pays. Là, il y a plus un danger qu'une mise en cause de différentes institutions.
Et en tous les cas, je retiendrai personnellement, je ne sais pas vous, hein, mais de cette première demi-heure, ce qu'a dit François Reynard, que nous sommes dans une démocratie, François.
Et il,
que
faut
nous
sommes, il faut le rappeler, parce que les gens l'oublient tout le temps.
Ah, allez, sûr. Nous marquons une pause, 20h et 28 minutes pour les informer. On se retrouve après la météo et le journal pour la deuxième partie. À tout à l'heure.
Aujourd'hui, à cause des fausses informations, notre capacité à connaître ou à reconnaître la réalité est en danger. Demain, qui pourra encore rapporter les faits en profondeur, parler honnêtement de l'environnement, de notre santé ? Regardons l'affaire Khashoggi, les journalistes tués en Europe et ailleurs, ceux qu'on menace pour leurs enquêtes sur les conflits, la corruption, les discriminations. Je suis Christophe Deloire, de Reporters sans frontières. Nous avons besoin de vous pour défendre l'information libre, indépendante et fiable. Ses ennemis sont puissants. Faites un don sur rsf.org.
Le prélèvement à la source. Tout ce qu'il faut savoir avant son entrée en vigueur le 1er janvier. Journée spéciale, demain sur France Info. Explications, reportages, débats, invités. Journée spéciale. Rendez-vous dès 7h.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, les grisailles seront encore plus étendues sur la majeure partie du pays et leur évolution sera difficile, voire inexistante. Entre les vallées du Massif Central, les bords de Seine et le Nord-Est, les brouillards seront encore localement givrants. Quelques gouttes s'échapperont de l'imposante masse nuageuse vers le Boulonnais et également vers le Pays Basque. Des trouées arriveront tout de même à se dessiner près des côtes de la Manche l'après-midi. La dissipation des grisailles sera plus favorable de la Moselle au Jura et à la plaine d'Alsace et les sommets seront plutôt ensoleillés malgré un ciel voilé. Du sud Auvergne aux plages de la Méditerranée et sur les Alpes, la journée sera aussi lumineuse avec un soleil voilé. Et sur les Pyrénées, le voile nuageux sera même plus fin et le soleil brillera davantage. Des gelées sont encore à craindre cette nuit sur un large quart nord-est et demain après-midi, les maximales afficheront 11 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen et le long des Pyrénées, mais seulement 1 à 10 degrés sur le reste du pays.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Antoine Geoffin.
Bonsoir. Peter Sherriff mis en examen et écroué ce soir pour association de malfaiteurs terroristes criminels en récidive. Le Français avait été arrêté mi-décembre à Djibouti et placé en garde à vue dimanche en France. En 2011, le djihadiste a été condamné à 5 ans de prison par la justice française pour avoir combattu en Irak, mais il comparaissait libre et a donc pris la fuite. Peter Sherriff, un proche des frères Kouachi de l'attentat de Charlie Hebdo. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir s'il a joué un rôle dans cette attaque en janvier 2015. Ariane Grissel.
Le nom de Peter Sherriff apparaît bien dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015, mais il n'est l'objet d'aucun mandat d'arrêt dans ce dossier. En réalité, son nom n'y figure pour le moment qu'en raison de ses liens avec les frères Kouachi. Tous les trois se connaissaient depuis longtemps. Ils ont fait partie de la filière dite des Buts de Chaumont, un groupe d'aspirants djihadistes formé au début des années 2000 à Paris. On sait qu'après sa fuite en 2011, Peter Sherriff est allé se cacher au Yémen et devenu cadre d'Al-Qaïda sur place, que les frères Kouachi et lui ont été en contact dans l'année qui a précédé les attentats de janvier 2015 et que l'un des frères Kouachi s'est rendu au Yémen, mais aucune preuve pour le moment de l'implication concrète de Peter Sherriff dans l'attaque de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Les enquêteurs vont donc devoir faire vite s'ils estiment qu'il doit être jugé en même temps que les autres mis en examen pour les attentats de janvier 2015. Un procès devrait se tenir d'ici 2 ans.
Ariane Grissel. Alexandre Benalla devrait rendre ses passeports diplomatiques après sa mise à pied par l'Elysée. Il s'y était engagé, affirme le Quai d'Orsay. Selon Mediapart, Alexandre Benalla a voyagé ces dernières semaines, notamment au Tchad, grâce à un passeport diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères dit examiner toutes les suites possibles, y compris judiciaires, sur cette non-restitution. Le trafic SNCF totalement interrompu à la gare de Strasbourg. Elle a été évacuée il y a un peu plus d'une heure à la suite d'un appel malveillant, selon nos confrères de France Bleu Alsace. Un speed rider savoyard s'est tué aujourd'hui près de Chamonix. Il descendait les pentes à ski avec la voile d'un parapente. Cet homme de 42 ans a commis une erreur technique lors de son décollage depuis le col du Midi à 3500 mètres d'altitude. Reprise des négociations ce soir à Washington. Le Sénat se réunit d'ici une heure pour trouver un accord sur le budget et donc mettre fin au shutdown. Plus de 5 jours que les principales administrations fédérales sont bloquées, faute d'un compromis entre le Congrès Congrès et la Maison Blanche. À Madagascar, la victoire à la présidentielle de l'ancien chef de l'État, Andry Radzouel, face à Marc Ravalmanan, annonce de la commission électorale du pays. Selon elle, Andry Radzouel a remporté 55% des suffrages, mais ces résultats pourraient être contestés. Marc Ravalmanan crie à la fraude. En Italie, enfin, la sanction sportive contre l'Inter de Milan qui n'a pas traîné. Le club devrait disputer, va disputer ses deux prochains matchs à domicile à huis clos. C'est dans son enceinte que Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples, a été victime de chants racistes hier soir. Tout de suite sur France Info, les informés, Jean-François Aquili.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Fatima El-Ouazdi, présidente fondatrice de Politiquel, avec François Reinhardt, journaliste, écrivain, chroniqueur à l'Obs, avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, avec Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Dis-moi, quel est ton gilet et je te dirai qui tu es. Les futurs candidats aux élections européennes ont une fâcheuse propension depuis quelque temps à revendiquer ce mouvement, vous le savez, qui paralyse la France depuis plus d'un mois. Comment transformer les gilets jaunes en offre électorale, avec une baguette magique sans doute, alors que les formations politiques n'ont jamais réussi à monter à bord du train? Voici ce qu'en a dit ce matin Jordan Bardella, probable tête de la liste du Rassemblement National, invité chez nos confrères d'Europe 1.
Je crois que, si vous voulez, les gilets jaunes ne sont pas un mouvement politique. C'est aujourd'hui l'expression de, c'est le réveil du peuple français qui en a marre aujourd'hui du désintérêt de ses élites et qui aimerait aujourd'hui une politique de bon sens dans notre pays. Et c'est vrai que c'est ce qu'on défend, hein. Les revendications des gilets jaunes, c'est aussi beaucoup de revendications qu'on porte depuis un certain nombre de temps sur l'arrêt du matraquage fiscal pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour ceux qui bossent. C'est aussi une démocratie un peu plus développée avec le référendum d'initiative populaire, rendre la parole au peuple. Sur tous ces grands concepts, sur toutes ces grandes mesures, eh bien c'est vrai qu'on les porte, et le Rassemblement National les porte depuis un certain nombre de temps. Et je crois que c'est pas pour rien si aujourd'hui les sondages nous placent en tête des élections d'intention de vote pour les élections européennes.
François Reinhardt, Jordan Bardella, tête de liste, on va le dire comme ça, semble dire qu'il y aurait une forme de convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et le Rassemblement National.
C'est-à-dire que quand on voit le Rassemblement National, c'est un programme tellement démagogique qu'il attrape tout le monde. Donc, puisque c'est le parti qui dit qu'il faut baisser les impôts et monter les services publics. Donc, à partir de ce moment-là.
Tout le monde converge.
Oui, tout le monde est pour le fait qu'on doit payer moins et que d'avoir plus, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a autre chose qui m'intéressait là-dedans. Il y a, dans l'histoire des politiques et les Gilets jaunes, il y a Philippot qui fait un truc, alors là, qui est complètement crapuleux, qui a déposé le titre, qui a déposé à l'INPI, hein, l'Institut de la Protection Industrielle.
Oui, c'est l'opinion qui a révélé ça ce matin.
C'est incroyable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va dire si je dis gilet jaune, je donne du fait à Philippot.
La procédure prend, je crois, enfin, plusieurs mois. Il est
ah bon,
pas sûr que ce soit.
Il y a 24 autres demandes.
Ça, c'est anecdotique. Mais l'autre chose, le fait que là, Philippot, oui, c'est complètement opportuniste. En plus, il est à la ramasse, donc il essaie de s'accaper derrière. Mais le fait que il y a la liste communiste qui dit on va ouvrir des gilets jaunes, le fait qu'il y a la liste Rassemblement National qui va ouvrir des gilets jaunes, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que ce qui faisait peur dans le mouvement des gilets jaunes, c'est le côté on veut pas de la politique, on veut pas de la politique. Mais tu vas t'exprimer comment? Alors tu vas continuer à faire des manifs et à casser partout. Là, ça rentre dans le flot démocratique. L'expression des suffrages, elle est gouvernée, elle est dans une démocratie par les partis politiques. Ces gens vont rentrer dans les partis politiques. Je trouve ça très très bien. Ça va devenir un mouvement démocratique.
Fatima El-Ouazdi, vous êtes d'accord avec François Reinhardt? Il faudrait que des gilets jaunes intègrent telle ou telle liste, ou alors il faudrait une vraie liste gilets jaunes après tout?
Alors, je ne sais pas quel chemin faut que les gilets jaunes prennent. Est-ce qu'ils doivent se présenter?
Il faut qu'ils soient dans les européennes.
Par contre,
selon vous.
Moi, je pense qu'il est tout à fait souhaitable que les gilets jaunes se constituent en liste, ou alors en tout cas fasse valoir et se présente en tout cas démocratiquement, de façon démocratique, au suffrage universel direct, comme l'a fait le président Macron, qu'il souhaite à peu près tous destituer. Mais bloquer un rond-point, ça ne confère aucune légitimité démocratique. Bloquer les rues, provoquer des accidents, parce qu'il y a quand même eu 10 morts à cause de blocage enfin, je veux dire, ce qui se passe, c'est assez dramatique, c'est que des gens qui n'ont été élus par personne prennent la parole dans les médias depuis des semaines et des semaines, beaucoup plus que ce qui est leur poids réel. Donc il faut que cela se transforme, en tout cas de ce transfert de la rue aux urnes. Après, en sont-ils capables? Parce qu'il y a la question de la capacité à se regrouper, ne serait-ce que idéologiquement. C'est un package idéologique tellement différent au sein des Gilets jaunes. Enfin, je sais pas. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y aura une constitution de liste.
Alors, on va se tourner vers votre expert, Frédéric Dabi. Il y a trop de tendances pour faire constituer une liste cohérente.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu des mots d'ordre communs. D'abord, la hausse des taxes, puis la crainte du déclassement, puis le pouvoir d'achat, puis la rebelle fiscale. Mais ce qu'on a vu tout au long de ce mouvement, si on le regarde maintenant avec un peu de recul, c'est la très grande difficulté pour ce mouvement à faire émerger des représentants qui, très rapidement, ont été par d'autres gilets jaunes délégitimés. Maintenant, vous le disiez très bien, l'enjeu, c'est comment constituer un mouvement social en force politique. Comment ça va se concrétiser? Moi, je me souviens, ça n'a pas grand-chose à voir, mais comme dans les années 90, on avait parlé pendant la campagne des élections européennes de la liste Sarajevo, qui était montée à 15 dans les sondages, Euro-Sarajevo, ils avaient fini à 1,5, pourtant conduit par un Français très populaire, qui était Léon, le professeur Schwarzenberg. Maintenant, ce qui est vrai, c'est quand on regarde les rapports de forces électoraux pour les prochaines élections européennes, les listes qui connaissent une véritable dynamique sont celles dont les sympathisants soutiennent le plus le mouvement des Gilets jaunes. Rassemblement national, bien sûr, qui est en tête et qui, dans notre enquête pour l'opinion, n'est plus qu'à un point de son score historique de mai de 2014 avec 24 points. Et également Nicolas Dupont-Aignan, ouais, qui talonne la liste LR soutenue par Laurent Wauquiez. Maintenant, c'est vrai qu'on assiste à des récupérations assez ridicules, pathétiques, et d'une part, les Français décodent la chose, d'autre part, les Gilets jaunes vont sûrement refuser ça. Maintenant, voilà, est-ce que ce mouvement, et c'est la vraie question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui, ici et maintenant, est-ce que ce mouvement va pouvoir se constituer en force politique? Je pense que rien n'est moins sûr.
Est-ce à souhaiter, Éric Delannoy?
Oui, c'est à souhaiter parce que je pense que c'est le seul mouvement qui, dans sa partie acceptable, a mis en évidence le fait que la fracture sociale n'était plus acceptable. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'on reste sur une vigilance qui permette de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, tous les partis politiques traditionnels, notamment l'opposition, se foutent pas mal de la fracture sociale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à récupérer...
Vous ne mettez pas le gouvernement et la République En Marche dans le lot?
Écoutez, non, parce que pour une raison extrêmement simple, c'est que Le Monde, à titre aujourd'hui, je crois, le fait que 2019, avec les mesures qui avaient été prises par Emmanuel Macron, allait être l'année de la hausse du pouvoir d'achat. Il faut savoir que ça avait été dit par l'OFCE 3 mois avant les Gilets jaunes. Il l'avait même chiffré à 3,5 milliards d'euros, parce que les mesures qui ont été prises sont des mesures qui étaient prévues. C'est le calendrier qui a changé. Moi, la politique sociale d'Emmanuel Macron, je la connais, puisque je la mets en œuvre tous les jours dans ma société. Et je vois les efforts qu'il fait pour faire cette politique sociale. Sauf qu'il est inaudible, plus quelques erreurs de communication. Donc non, je ne pense pas que La République En Marche s'en moque. En revanche, et là je ne fais pas un billet pour La République En Marche, je me dis simplement qu'en termes d'opposition, nous avons besoin de vigilance. Les Gilets jaunes, dans son mouvement acceptable, c'est la vigilance démocratique pour faire en sorte que le déclassement des classes moyennes s'arrête et qu'on trouve les bonnes mesures. Ce qui me gêne, en revanche, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je ne vois pas du tout émerger de corpus idéologique ni d'idées intéressantes au niveau de l'Europe, à part le Frexit qui est juste inacceptable.
Allez, 20h40 sur France Info. On reparle de politique dans un instant, mais tout de suite, rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Laurent Saillez, porte-parole des Républicains, réagit ce soir sur France Info à cette nouvelle affaire Benalla. Il est temps que les Français sachent ce qu'il en est. Le Quai d'Orsay reconnaît aujourd'hui avoir demandé en vain à Alexandre Benalla la restitution de 2 passeports diplomatiques en sa possession. Mediapart affirme que l'ancien chargé de mission à l'Élysée continue à voyager avec. Comme l'a fait il y a 2 semaines maintenant un groupe d'experts indépendants, l'Agence nationale du médicament se dit aujourd'hui favorable à l'utilisation du cannabis thérapeutique. Un avis définitif dans ce dossier est attendu avant l'été 2019. Accusé de ne pas avoir suffisamment protégé les données des clients de sa marque B&U, Bouygues Telecom va devoir payer une amende de 250 000 euros. Il est reproché à l'opérateur d'avoir permis l'accès à des contrats et factures de ses clients. La France comptait au 1er janvier 2016 66 362 000 habitants. L'INSEE a dévoilé aujourd'hui ses derniers chiffres du recensement. Entre 2011 et 2016, les grands pôles urbains ont tiré vers le haut la croissance démographique, notamment Nantes, Bordeaux, Montpellier. Paris, en revanche, a perdu des habitants.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous sommes sur le thème de la campagne, c'est une pré-campagne en fait, des européennes et des gilets jaunes. François Reynard, vous aviez quelque chose à ajouter?
Non, je voulais dire que les gilets jaunes, s'ils veulent faire une liste, ils devraient soigneusement regarder ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles. Parce que le mouvement 5 étoiles, vous savez, le mouvement qu'on dit populiste, etc., il y a beaucoup de points communs avec les gilets jaunes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 6 mois qu'ils sont au pouvoir, ils ne tiennent aucune de leurs promesses. Hein, ils avaient promis monts et merveilles, ils devaient faire un revenu universel, ils devaient faire des tas de choses, fermer des tas de choses qui ne marchaient pas, etc. Ils ne tiennent aucune des promesses. Donc voilà, quand il faut faire de la politique, il faut aussi savoir promettre des choses qu'on peut tenir après.
L'exercice du pouvoir. Alors les grandes manœuvres des européennes passent décidément par les ronds-points. C'est un peu le deuxième thème ce soir. Le Parti communiste français, vous le disiez tout à l'heure, hein, a lui aussi tendu la main. Son secrétaire national Fabien Roussel veut une liste ouverte à des gilets jaunes que son parti soutient. Yann Brossat, la tête de liste du PCF aux européennes, invité de France Info ce matin, ne veut pas d'alliance classique à gauche avec Ségolène Royal et lui préfère gilet et blouse. Écoutez bien.
Aujourd'hui, le Parti Socialiste envisage de présenter Ségolène Royal. Ségolène Royal a défendu tous ces traités européens qui nous conduisent aujourd'hui dans les difficultés dans lesquelles nous sommes. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'alliance avec des gens qui sont favorables aux traités européens actuels.
Avec Hamon, oui. Avec le PS, non.
Avec le Parti Socialiste, ça me paraît effectivement compliqué. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, maintient qu'on peut faire l'Europe sociale avec des traités européens libéraux, ce qui est une arnaque. Je souhaite qu'il y ait des gilets jaunes, je souhaite qu'il y ait des blouses blanches, je souhaite qu'il y ait des cols bleus. Je souhaite que cette France du travail qui s'est beaucoup exprimée ces dernières semaine, elle trouve sa place dans notre liste aux élections européennes.
Voilà, Yann Brossat avec Gilles Bornstein, gilet jaune, blouse blanche, col bleu, ce sont les soldes avant l'heure, Frédéric Dabi. Hein.
Déjà, j'ai envie d'inscrire ces propos de Yann Brossat dans une véritable continuité. Les élections européennes, c'est un scrutin où les partis politiques se comptent et on n'a jamais vu des trompez-moi. Alors, il y a eu des alliances RPR-UDF, mais pas toujours. Et on n'a jamais vu d'alliance Parti Socialiste, Parti Communiste, comme à l'échelle municipale, comme dans d'autres scrutins, aux élections européennes. Moi, ce qui me frappe, au-delà des propos de Yann Brossat, c'est d'une part l'extraordinaire atomisation de la gauche. On est sur 5, voire 6 listes, et son étiage électoral extrêmement bas. La dernière enquête de l'IFOP publiée pour le quotidien L'Opinion, on n'avait pas testé une liste gilet jaune, le total gauche est en dessous des 26%. On voit là où en est la gauche, et c'est vrai que c'est là, on est peut-être à la fin de l'année, on peut parler d'une sorte de bilan politique, là où on est sur une période extraordinaire et qui sort de l'ordinaire. Certes, le président Macron a connu une année absolument terrible et il est très fragilisé dans sa relation avec les Français, mais ce qui est absolument inédit, c'est qu'il n'y a pas de réceptacle véritable politiquement, pas de débouché à ce mécontentement, excepté peut-être le Rassemblement National qui, comme ça a été dit, joue sur le discours anti-élite et sur le matraquage fiscal. Il n'y a pas, cette année, c'est aussi l'année de, je dirais, la continuation des difficultés extraordinaires que connaissent les deux partis qui ont géré le pays depuis les années 58, à savoir LR d'un côté, le Parti Socialiste de l'autre.
Fatima El-Ouazdi, pour prolonger ce que dit à l'instant Frédéric Dabi, c'est une gauche en miettes aujourd'hui.
Sur votre plateau, j'avais dit exactement ça, c'est-à-dire qu'on a une fragmentation idéologique même au-delà même du nombre de listes, c'est-à-dire qu'on a une gauche qui est mondialisée, une gauche qui est anticapitaliste, on a une gauche qui est fédéraliste, une gauche qui est clairement anti-Europe. Hein, quand on entend ce qu'a dit Yann Brossat, c'est un peu inquiétant de dire qu'on ne peut pas faire une Europe sociale avec l'Union européenne, alors que justement, quand on regarde la réalité, c'est que pour éviter tout ce qui est dumping fiscal, pour éviter tout ce qui est dumping social, si on a une Europe qui est faible, bien évidemment qu'il y a des entreprises qui en profiteront pour aller dans des pays où ils peuvent faire ce genre de pratiques et optimiser fiscalement ou socialement. Et donc, tant qu'on aura ce genre de discours qui sont extrêmement dangereux et extrêmement, je dirais, totalement contre-productifs, bien sûr que la gauche n'arrivera pas à se relever. Et je pense qu'il y a un travail à faire si la gauche veut continuer à exister politiquement. Il y a aussi une question de rente politique. Il faut dire que la gauche, en présentant toutes ces listes-là, cherche aussi garder leur position. Je pense à Benoît Hamon qui présente sa propre liste Génération, Yannick Jadot avec sa liste Europe Écologie, Glucksmann pour Place Publique si jamais il fait sa liste, Yann Brossat pour le PCF, et franchement, et je suis désolée, j'en oublie, hein. Je ne sais même pas qui est la tête de liste PS malheureusement.
Elle n'existe pas pour l'instant. Elle n'existe pas encore,
voilà, mais enfin bref, tout ça pour garder...
Michel Herr, c'est le problème.
Ça pour garder en tête que je pense que c'est difficile pour la gauche de se structurer idéologiquement, et que je pense que tant que les syndicats aussi auront des difficultés assurer le dialogue social, la gauche ne pourra pas revenir à des niveaux qui étaient les siens par le passé.
Justement, François Reynard, très juste ce que dit Fatima El-Ouazdi. Vous vous rappelez, l'union de la gauche, c'est vieux, hein, cette histoire. Ça n'existe plus.
Surtout qu'on a été, structuré pendant des années avec l'idée, j'étais à Sciences Po dans les années 80 avec l'idée que la fracture droite-gauche était l'espèce de truc que la 5e République était faite là-dessus, enfin la France était faite là-dessus, les deux France. Et ça, tout ça a volé en éclats, on ne sait plus où sont les lignes de partage. Donc quand on dit la gauche est un étiage très bas, hein, c'est ce que j'ai entendu là, mais d'un autre côté, il y a une partie des gens de gauche qui sont chez Macron, donc il reste quand même un certain nombre de...
même par rapport à la présidentielle.
À la présidentielle,
oui. Le centre de gravité, c'est quand même bien déplacé sur la droite.
Sauf que là, pour rebondir sur ce que disait Fatima, comme il y a beaucoup... Moi, je suis très européen, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vient d'entendre qu'on est 66 millions, les Chinois, ils sont 1,4 milliard, hein, donc, ou 1,3 milliard, un truc comme ça. Donc voilà, je suis européen pour ça, parce que je préfère être 500 millions et défendre la démocratie à 500 millions que face à des gens qui sont des méchants, hein, qui veulent notre mort. Hein. Il faut quand même savoir qu'ils veulent écraser l'Europe. Hein. Poutine et Xi Jinping, leur rêve, c'est de nous foutre par terre. Bon. Et donc pour ça, donc une des lignes de partage, c'est plus gauche-droite, c'est européen ou anti-européen. Hein. Moi, je pense que...
C'est une des grosses fractures entre progressistes et réactionnaires.
Je suis un homme de gauche, mais si un homme de droite me dit je défends l'Europe et qu'un homme de gauche me dit je suis contre l'Europe, moi, je vais voter pour l'homme de droite, ça c'est sûr.
Éric Delannoy, vous êtes inquiet, vous venez de l'entreprise, vous êtes économiste. Il y a le 31 décembre qui arrive, en acte 7, je crois, avec peut-être un mouvement qui va perdurer, un grand débat qui va démarrer en janvier. Qu'est-ce que tout cela vous inquiète, vous, en tant que comme d'entreprise ?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est tout le chiffre d'affaires qui est perdu par toutes ces perturbations, alors qu'objectivement, il y a des réponses qui ont été données, des réponses de court terme, des réponses de moyen terme sur le grand débat national. Va arriver le débat autour de l'Europe. Moi, ce que j'entends des postures politiques, je n'entends pas de projet européen. J'entends des anti-européens et des pro-européens, mais qui aujourd'hui, même en 2017, qui fait campagne pour l'Europe ? Qui essaie de faire un renouveau européen, qui essaie de proposer des choses concrètes, mais concrètes, hein, je veux dire, quand est-ce qu'on va parler concrètement de ce que c'est l'Europe? Qu'est-ce que c'est qu'une harmonisation sociale en Europe? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une Europe qui serait première économie du
sociale
monde?
Sociale et fiscale,
Sociale et fiscale, bien sûr, ça va ensemble, de toute façon.
Ouais,
mais vous voyez, en France, on a une économie sociale et solidaire qui est une des plus importantes d'Europe, qui représente 14% du PIB, 10% des salariés. On a une innovation sociale absolument incroyable. On pourrait être les leaders pour porter ça au niveau européen et mettre dans chaque politique européenne de l'innovation sociale. On a donc les moyens de créer un projet européen derrière lequel il y ait une Europe sociale qui soit revendiquée, dans lequel d'ailleurs il y a déjà eu des mesures qui ont été prises. Personne n'en parle, on ne parle que de petites chicaneries sur les postures personnelles des uns et des autres. Moi, je pense que je suis très inquiet à cause de cela. Quant aux Gilets jaunes, je souhaite qu'ils se structurent politiquement en nettoyant tout ce qui vient de leurs extrêmes et en faisant en sorte qu'ils créent un corpus idéologique, un vrai contre-pouvoir.
Ça prend du temps, non ?
En faveur des classes sociales. Oui, ça prendra du temps.
Ça prendra du temps.
Ben oui.
Allez, 20h50 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec Thomas Bénèche.
Peter Sherif derrière les barreaux ce soir, il doit exécuter une peine de 5 ans de prison pour avoir combattu en Irak. Il est aussi soupçonné d'activités djihadistes au Yémen qui lui valent ce soir une nouvelle mise en examen. Peter Sherif est un proche des frères Kouachi, les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Alexandre Benalla a-t-il utilisé un passeport diplomatique pour se rendre au Tchad peu de temps avant le déplacement du chef de l'État? Mediapart affirme que oui, le Quai d'Orsay reconnaît que l'ancien chargé de mission de l'Élysée est toujours en possession de 2 passeports malgré une demande de restitution. Le ministère des Affaires étrangères examine de possibles suites judiciaires. L'Inter Milan devra jouer 2 matchs à huis clos. La Ligue italienne de football sanctionne aujourd'hui le club après des cris racistes lancés hier soir contre le défenseur sénégalais napolitain Kalidou Koulibaly. Leur chance d'aboutir semble mince. Les négociations pour trouver une issue au shutdown, ce blocage partiel de l'administration américaine, reprennent aujourd'hui. Au cœur du blocage, la volonté de Donald Trump de construire un mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous, Thomas Bénèche. Tiens, Trump, on en parle. Et François Reynard évoquait à l'instant les géants planétaires, la Chine, la Russie. Et voici l'Amérique qui ne veut plus être le gendarme du monde. Donald Trump est allé le dire en personne la nuit dernière, aux côtés de son épouse. Visite surprise de 3 heures à Al-Assad, c'est à l'ouest de Bagdad. Visite des troupes, sa première en 2 ans. Les troupes basées en Irak, en compagnie de son épouse Melania. Donc voici les propos de Monsieur Donald Trump.
Nous sommes déployés partout dans le monde.
dans des pays dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Franchement, c'est ridicule.
François Reinhardt, changement de doctrine.
C'est gênant. Le président des États-Unis, des pays, ça veut dire c'est des non-êtres, quoi. C'est vraiment un crétin, ce type-là. C'est effrayant. Et le truc qui me rend malade, c'est que là, ce qu'il fait, il dit on retire nos hommes de Syrie. Il y a 2000 Américains qui étaient là-bas. Il les retire de Syrie. C'était des gens qui se battaient à côté des forces syriennes libres, hein, les Syriens qui se battent contre les islamistes et les Kurdes. C'est-à-dire qu'il abandonne les Kurdes. Pourquoi il fait ça? Parce que Trump, dans sa dinguerie, une fois il veut faire un cadeau au patron de l'Arabie Saoudite, une autre fois il veut faire un cadeau à Erdogan. Alors, il était très ennemi avec Erdogan il y a 6 mois, mais il est très copain avec lui. Ça change tout le temps. Et donc Erdogan n'a qu'une envie, c'est de liquider les Kurdes. C'est l'obsession du président turc. Hein. Donc du coup, lui, il retire ses.
Il est en colère, hein, ce soir.
Ça me rend dingue. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus courageusement. Les Kurdes qui se battent courageusement pour nous protéger, nous. Ils se battent contre les islamistes pour nous protéger, nous. Hein. Et Trump qui abandonne tout ça avec une désinvolture. Enfin,
je partage votre colère, mais ce type de phrase n'est pas nouveau du tout. Oui. Je ne parlerai pas du courant isolationniste entre les deux guerres après le président Wilson. Et puis Barack Obama,
septembre 2013, on se souvient, pour revenir à la politique française, comme
l'intervention, la non-intervention en Syrie avait coûté en termes de popularité à François Hollande autant que le ras-le-bol fiscal, il y avait aussi un refus d'intervenir de la part de Barack Obama. Oui. Par contre, là où les Français, si je puis dire, que l'on sonde à l'IFOP, vous rejoignent complètement, c'est une détestation vis-à-vis de Trump. Il y a un chiffre que je donne souvent. Avant son élection, 77% des Français voyaient les États-Unis d'Amérique comme un allié sûr, on est passé en un an et demi à peine 38%. 39 points de moins, ça n'arrive jamais dans une enquête d'opinion. Ça en dit long sur sa détestation.
Ça veut dire qu'il faut manifester dans les rues pour défendre une armée européenne. Ça veut dire qu'il faut qu'on se défende nous.
Les Français sont favorables.
Fatima, vous êtes aussi emportée que François Reinhardt
Moi, j'aimerais apporter une autre perspective au débat. On a le président Trump qui nous dit nous ne sommes pas les gendarmes du monde. L'Amérique, enfin en tout cas les États-Unis d'Amérique ont souvent joué ce rôle diplomatique, militaire, d'intervention, d'interventionnisme finalement, ce qui a été dit juste avant. Et il parle de fardeau à juste titre parce qu'on peut pas se reposer de façon, ad vitam aeternam en disant on est pour le multilatéralisme d'un côté, mais de l'autre, il y a que les États-Unis qui ont une capacité militaire qui soit forte. C'est pour ça qu'il faut insister sur l'Union européenne et l'Europe. Je pense qu'on a eu un discours qui a été fort du président de la République à la Sorbonne où il a étayé sa vision d'une Europe de la défense. Et je pense que l'Union européenne a un rôle à jouer en créant, pas une armée européenne, mais en ayant des armées qui sont fortes au niveau européen, avec une vision stratégique commune, avec un budget qui soit consacré à la recherche et au développement des capacités militaires, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire, oui, les Américains se retirent de Syrie, et nous, qu'on soit pas, au niveau européen, capable de faire quelque chose. Ça, c'est inadmissible aussi, je pense qu'il faut le dire, et que l'Union européenne doit prendre sa juste part dans ce monde.
Éric Delannoy, que dites-vous de cette déclaration, une de plus, hein, de M. Donald Trump, qui s'adresse d'ailleurs à ses électeurs, aux Américains aussi.
Oui, absolument, c'est très cohérent par rapport à son programme politique, hein, et par rapport à ce qu'il avait dit. Quand on regarde l'histoire de ce gendarme du monde, hein, 1947, on voyait la puissance américaine comme un moyen de régulation des conflits mondiaux pour éviter que se répètent les grands conflits. C'est devenu ensuite un moyen de défendre les intérêts, même au prix de décorner les principes démocratiques. Hein. On se rappelle les coups d'État qu'il y a eu en Amérique latine notamment. C'est ensuite devenu une manière de pouvoir afficher son pouvoir au niveau mondial. La Trump revient sur le multilatéralisme, mais avec une hypocrisie la même que Barack Obama en 2013. Il faut quand même voir qu'après ce qu'a dit Barack Obama en 2013, si on prend 2014, l'extraterritorialité du droit américain, lui, bizarrement, il continue. On n'est plus gendarme du monde, sauf pour imposer une vision du droit à tout le monde. Égal 9 milliards d'euros pour BNP Paribas en 2014, c'est-à-dire 8 mois après la déclaration d'Obama. Donc on est sur une forme d'hypocrisie. On restera, à mon avis, le gendarme du monde tant que c'est dans mes intérêts propres, tant que c'est dans les intérêts des Américains. En revanche, ça consacre la fin officielle du multilatéralisme, parce que le gendarme du monde, c'était une forme de multilatéralisme.
François Reinhardt, et pendant ce temps, la France reste le gendarme d'une partie du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest. Nous revenons au Tchad, hein, que nous évoquions en début de cette émission. Il y a une sorte de partage des rôles aujourd'hui.
Alors, on peut pas. Il y a une puissance française, ça c'est sûr, une puissance militaire française, c'est sûr, mais elle n'est pas comparable. Elle n'est pas comparable à la puissance américaine ou à la puissance russe ou à la puissance chinoise. Oui, tout à fait, bien sûr, parce que on est beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça que moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'argument qui me paraît le plus évident pour l'Europe, c'est qu'il faut qu'on soit au niveau européen, parce que là, ça aurait un sens. Alors, le Brexit, dans le sens militaire, nous pose un gros problème, parce que la deuxième grande puissance militaire européenne, c'est l'Angleterre.
Donc, la
Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Donc, comme lui, il s'en va, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à s'entendre avec les Allemands, les Espagnols, les Italiens, en disant, tous ensemble, on va essayer de faire une armée qui soit conséquente, ne serait-ce que pour défendre nos intérêts.
D'où un projet européen fort.
Voilà. Il ne s'agit pas d'être les gendarmes du monde. Il s'agit de défendre les intérêts de l'Europe et de protéger nos démocraties.
Fatima Elouazi, vous aurez le mot de la fin.
Oui, tout à fait. Et surtout, en renforçant l'Union européenne, en tout cas les armées de l'Union européenne, on renforcera aussi l'OTAN. Et on favorisera, je pense pas à la mort du multilatéralisme. Au contraire, je pense qu'il faut favoriser de nouveaux modes de diplomatie mondiale, plus inclusive et plus forte, en tout cas en ayant des gros pôles stratégiques.
François Reinhardt, la une de l'Obs en kiosque cette semaine.
Alors là, c'est facile parce que c'est la même que celle de la semaine dernière. C'est un numéro double. C'est la fin de l'année. C'est formidable. C'est un dossier sur l'amour. Oui. Il y a 25 histoires d'amour fou. C'est Grégoire Leménager et Audrey Cerdan, deux journalistes de l'Obs que je cite parce qu'ils ont fait un travail formidable. C'est des histoires d'amour toutes très originales, bouleversantes. J'ai trouvé ça formidable.
C'est vrai que c'est le numéro double. Je l'ai lu et c'est vrai que c'est très intéressant. Ça change un petit peu de sujet. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Exactement.
Merci Fatima Elouazi. Merci François Reinhardt. Frédéric Dabi. Et Eric Delannoy d'avoir participé à ces Informés de France Info. Je vous retrouve pour ma part demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.